Bonsoir, c'est Selon. Bienvenue dans cette émission spéciale sur la Basketball Africa League. Entendez, Ligue africaine de basketball dont la VOA est partenaire en plus de cette émission. Nous aurons deux autres durant cette première phase de la balle, une à mi-chemin de compétition et une dernière à la fin de la compétition. Comme le premier historique acte qui a eu lieu en mai 2021, disons, à Kigali au Rwanda, 12 équipes tenteront de succéder aux Amalek du Caire. Vainqueur de la première balle cette année, les 12 clubs ont été répartis en deux conférences de 6, la conférence Sahara et la conférence Nil. Cette dernière comprend BC Espoir Foukache de la République démocratique du Congo, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, Cobra Sport Club du Soudan du Sud, Force Armée et Police Basketball du Cameroun, entendez frappe, Pedro de Luanda d'Angola donc, et le champion en titre, bien sûr, le Zamalek d'Égypte. Cette conférence Nil jouera ses matchs de poule du 9 au 19 avril au Caire en Égypte. Et dans la conférence, on retrouve Dakar Université Club du Sénégal, l'AS Salé du Maroc, Ferroviaro d'Abeira du Mozambique, Rwanda Energy Group, Sedou Legacy Athletic Club de la Guinée et l'US Monastir de la Tunisie. La conférence Sahara ouvre donc cette saison 2 à Dakar au Sénégal ce samedi 5 mars. Le match d'ouverture oppose Dakar Université Club à Sedou Legacy Club de la Guinée. Pour parler de cette deuxième édition de la Basketball Africa League, nous avons des invités tous férus de basketball. À Casablanca, au Maroc, on a Amine El Amri, journaliste sportif. Il était à Kigali, au Rwanda l'année dernière, pour l'acte 1 de la balle. Amine, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir aux auditeurs. Merci de m'accueillir.
À Dieppe, en Normandie, en France, nous avons Sylvain Zengue, président du Moving Basketball Centre MBC au Burkina Faso et promoteur du Moving Sports Camp, un centre de formation en basketball pour des jeunes talents. Bonsoir Zengue.
Bonsoir.
À Dakar, au Sénégal, nous retrouvons notre cher Amdine Si, consultant sportif, mais aussi ancien joueur et entraîneur de basketball, mais aussi ancien arbitre de basket. Amdine Nangadef, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Véranprise.
En studio ici à Washington avec moi, notre collègue Cheikh Thiro, aussi féru de basket, ancien basketteur qui a bénéficié d'une bourse pour poursuivre ses études aux États-Unis ici grâce au basketball. Cheikh, c'est un plaisir de t'avoir ici en studio.
Merci, bonsoir à tout le monde.
Merci à tous d'être là et à vous chers auditeurs et internautes d'être à l'écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose ce reportage de Trésor Matondo et moi-même Yacouba Ouédraogo. Nous l'avons réalisé sur l'évolution du basketball sur le continent. Lorsque les Amalek d'Égypte soulevaient le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions. La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte, Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Sonny Nyang est chroniqueur sportif à la VOA.
Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, le nom de Hakim de Dream Olajuwon du Nigeria, et le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais, probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains.
La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le Basketball Without Borders, Basketball Sans Frontières, à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Le Sénégal a accueilli la 17e édition en 2019, initiée par la NBA de concert avec la FIBA. Ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Ils bénéficient durant leur séjour d'un encadrement de basketteurs professionnels évoluant en NBA. Edouard Ouema est journaliste au service Kinyarwanda de la VOA.
Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers, une équipe qui se débrouille très bien dans la Ligue NBA. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam, du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA. C'est une bonne plateforme pour que ce jeune joueur africains brillent et, espérons-le, les propulsent dans les ligues majeures comme la NBA.
Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières, comme le dit le chroniqueur sportif du service portugais de la VOA, Johad José Santarita.
Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA. Joel Embiid, qui joue pour les Philadelphia 76ers, mais Enia Puertas, il est lui enregistré comme joueur portugais, mais ses parents sont originaires de Guinée-Bissau. Appelons-le donc un joueur africain.
La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge des talents à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali, au Rwanda, à cause de la pandémie du COVID-19. Victor Williams, directeur exécutif de la NBA Africa.
La NBA investit dans la croissance du jeu à travers le continent au sens large et dans le soutien aux entraîneurs et aux officiels de match. Nous continuerons d'investir de l'argent dans le jeu.
Selon ses promoteurs, la NBA Africa implique des investisseurs individuels parmi lesquels on compte entre autres l'ancien président Barack Obama, Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans trois villes, Dakar, Le Caire et Kigali. Le match d'ouverture opposera Duke du Sénégal à Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée le 5 mars à Dakar. Cette année, les équipes ont été divisées en deux conférences de 6, la conférence du Nil et celle du Sahara. Voilà donc pour ce reportage. Alors, Andinsi, je commence par vous. Comment vit Dakar quelques heures avant l'ouverture de cette saison 2 de la Basketball Africa League?
Et Dakar commence à vibrer au rythme de la deuxième édition de la Basket Africa League, communément appelée VAL, qui débute au niveau de la salle Dakar Arena, qui est déjà aux couleurs hein, de la balle, de même que les buissons. C'est fin aux couleurs de la balle. Il faut dire qu'il y a que cette compétition qui arrive seulement de une semaine après la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, des camps se déplacent au niveau des amateurs de la balle au panier, surtout au niveau des étudiants de l'université. Certes, entre d'autres, qui auront le privilège de voir le club le but participer pour la première fois de l'histoire à cette compétition qui réunit la crème du basketball africain au niveau des clubs. Les supporters du club étudiantaire ont commencé à sonner la grande mobilisation. Ils promettent de déplacer 5000 supporters au niveau des associations des supporters des équipes nationales après le 10e game. Aussi, on compte accompagner le DUC. Au niveau des médias, Yacouba aussi, c'est la grande mobilisation pour couvrir l'événement. D'ailleurs, les images sportives ont commencé à faire les tests de Covid car les ordinateurs de la balle ne bannent pas avec cela.
Merci Amdine. Amine El Amri, vous êtes au Maroc, à Casablanca. Vous étiez à Kigali pour la saison 1 de cette Basketball Africa League. Est-ce que vous dites, ça y est, la mayonnaise a pris parce que la saison 2 est là?
Oui, je ne dirais pas que la mayonnaise a pris à 100%, Yacouba, mais tous les ingrédients sont là. Absolument tous les ingrédients, il y a de la qualité, que ce soit au niveau managérial, apporté par l'expérience de la NBA et le fond aussi. Il y a aussi les équipes qui se sont bien renforcées par rapport à la saison première, où il y a eu les contraintes du Covid quand même, plusieurs joueurs qui ont même été, qui se sont rencontrés à Kigali. Juste pour l'anecdote, il y a une équipe, par exemple, comme la FLA, dont des membres ont rejoint les groupes à Kigali directement. Donc, la préparation est bien plus sereine que pour la saison 1, qui était malgré tout une belle réussite. Donc, je pense que les ingrédients sont là. On a vu comment la NBA a beaucoup investi en Afrique et continue de le faire avec une vision un peu moyen terme et long terme. Donc, c'est certainement une réussite par rapport à ce qu'on avait auparavant, mais je pense que la mayonnaise prendra un peu plus dans les prochaines années, surtout qu'à chaque fois, on entend parler de ces grandes personnalités africaines et d'origine africaine qui se joignent au train, on va dire, de la BAL.
Merci, Amine. Alors, Cheikh, pour l'être notre cher ami Cheikh, vous êtes ici aux États-Unis, vous avez bénéficié d'une bourse grâce au basketball, oui. Vous venez poursuivre vos études ici aux États-Unis, vous avez joué au basket, oui. Même si actuellement vous continuez de jouer, mais pas en tant que professionnel. Mm-hmm. Quand vous voyez une compétition comme la Basketball Africa League sur le continent, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ah, mais si en notre temps, s'il y avait ça, ça allait être beaucoup... beaucoup de changements dans beaucoup de domaines, parce que c'est une opportunité maintenant que les jeunes africains peuvent vraiment venir au NBA, sans même passer par la high school, au college, tout. Bon, je suis quand même content que le basket, l'opportunité qu'on nous a donnée avant de venir ici, que c'est le basketball Outer Border, qui est transformé à sa Basketball Africa League, que Gallo Fall a joué un très grand rôle. Et Gallo Fall a changé beaucoup de...
Gallo Fall, on précise, c'est le président de la Basketball Africa League.
Absolument. Bon, il a changé beaucoup de personnes, même s'il ne se rend même pas compte. Et la plupart des fois, il amène les joueurs de NBA en Afrique, on faisait les camps. Mais maintenant, c'est une compétition organisée qui vraiment expose les talents des Africains. Ça, c'est un grand atout. Et ça va seulement développer l'Amérique, pas seulement dans le domaine de basket, mais dans le domaine de l'économie, média, dans beaucoup de contrats entre les pays, quoi. C'est comme Barack Obama a dit que le basket c'est un pont, ou le sport même c'est un
le
pont.
Le sport en général.
C'est un pont, qui est construit entre les pays, quoi. Tout le monde parle la même langue.
Alors, juste cette question peut-être un peu.
Yeah,
Si à votre époque il y avait une compétition comme la Basketball Africa League, mm-hmm. vous seriez venu aux États-Unis?
Absolument. Et puis moi, on allait venir seulement aux États-Unis au NBA, pas seulement en high school ou bien au lycée, parce que maintenant c'est les gens qui jouent sur les professionnels maintenant dans le Basketball Africa League, c'est les gens qui sont des professionnels mais n'ont jamais été exposés à une opportunité. L'Amérique a beaucoup d'opportunités et les gens se voient, les Américains croient à l'internet beaucoup, ils croient à ce qu'ils voient. Bon, nous on n'avait pas c'est ça, même si tu es grand de taille, tu as beaucoup d'atouts de basket et tu n'as pas la chance d'exposer ça au grand niveau pour que les gens puissent voir. Et ça, c'est une opportunité vraiment pour l'Afrique de montrer son talent, non seulement dans le football, maintenant dans les baskets, ça va beaucoup améliorer aussi. Et puis ça va donner la chance aux joueurs de venir au NBA direct.
Et ça, c'est
normal. Parce que quand tu viens aussi au lycée, c'est un autre challenge aussi. Toi-même, tu sais, il y a 70 000 joueurs aux États-Unis qui essaient d'aller au NBA. Et si toi, tu as ça, ou ces opportunités-là, l'Afrique, c'est une grande chose. Bon, c'est comme ça, moi, je vois ce truc-là. Et puis d'autres bourses aussi. Même les jeunes gens qui ont l'âge de bourse de l'université,
ils
peuvent avoir la chance aussi d'être recrutés par les équipes des lycées ou des universités ici.
Merci, Cheikh. Alors, Sylvain Zengue, vous êtes burkinabé, même si vous nous rejoignez de la France aujourd'hui. Aucun club de votre pays ne prend part à cette Basketball Africa League. Vous qui êtes promoteur d'un centre de formation de basketball, le Moving Basketball Centre, et vous encore qui avez ce Moving Sport Camp, quelle vision ou encore quel regard vous jetez sur la Basketball Africa League?
Bon, il faut dire que la Basketball Africa League est une très belle opportunité qui est offerte à la jeunesse africaine, parce que c'est une véritable plateforme, j'allais dire une véritable vitrine, comme disait tout à l'heure Cheikh, qui est offerte à ces jeunes-là qui n'ont pas beaucoup de chance, qui n'ont pas eu beaucoup de chance de souvent avoir l'opportunité d'aller à l'extérieur. Donc, il y a un regard des staffs de la NBA, puisque c'est la Basketball Africa League est un produit de la NBA. Donc, c'est un label NBA, même si effectivement ça se passe en collaboration avec FIBA Afrique. Et il faut dire que le côté américain est très poussé dans cette organisation-là. Du coup, c'est quand même un label qui peut accompagner les jeunes Africains. D'un côté, à arriver pour peut-être passer par cette balle-là, pour arriver à NBA éventuellement, ou se faire vendre éventuellement dans les autres championnats européens et asiatiques. Mais également, c'est qu'il y a pas mal de coachs américains qui sont venus, en tout cas la première édition, et qui ont coaché ces jeunes-là. Et d'un autre côté aussi, il y a quand même des joueurs qui sont passés par les high school et la NCAA aux États-Unis qui se retrouvent à la BL. Donc, ça marche vraiment dans les deux sens.
Alors, Sylvain Zengue, très rapidement, en 10-15 secondes, vous avez des jeunes talents de basketball. Est-ce que ça les fait rêver, cette compétition de la Basketball Africa League?
Bien entendu, ça les fait rêver parce qu'ils suivent ça, ils ont suivi ça l'année dernière et le Burkina d'ailleurs cette année a essayé d'aller aux éliminatoires, mais je pense que c'est un peu court et les moyens ont également manqué, mais bon, peut-être que ce n'est que pas remis. La prochaine année, on aura l'occasion certainement de figurer.
Merci Zengue et merci aux autres également. Voilà pour ce qui est de la première partie de cette émission spéciale consacrée à la Basketball Africa League. On revient tout de suite. Nous parlons à présent de la conférence SARA en tant que telle qui disputera ses matchs à Dakar du 5 au 15 mars. Elle regroupe Dakar Université Club du Sénégal, l'AS Salé du Maroc, Ferroviaro d'Abeira du Mozambique, Rwanda Energy Group, Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée et l'US Monastir de la Tunisie. Chaque équipe affrontera une fois les 5 autres de sa conférence. Les 4 meilleurs se qualifieront pour les phases finales. Ces derniers se joueront en un tournoi élimination directe et la finale, bien sûr, à la Kigali Arena du 21 au 28 mai prochain. Alors, Sylvain Zengue, je reviens à vous. Comment entrevoyez-vous ce qui pourrait se passer dans cette conférence SARA?
Bon, il faut dire qu'il y a quand même de nouveaux visages. Il s'agit du Duc de Dakar, le Slack de la Guinée. Je pense également l'AS Salé qui ne porte pas là, ou je ne sais pas si c'était là l'année dernière.
C'était là l'année dernière.
Voilà, donc plutôt le Reg et le Beira. Donc le Monastir qui était en finale. Je pense qu'en fait, ça va beaucoup se jouer en fait entre Monastir, Salé, le Reg et éventuellement le Duc. C'est un peu ce que je pense. Et maintenant, la réalité du basket, c'est que bon, là, c'est l'équipe a mieux préparé, qui a un peu plus d'expérience et qui a peut-être aussi pu faire venir quand même des renforts majeurs. C'est eux qui vont peut-être se retrouver au sommet.
Le match d'ouverture oppose, je le disais, Dakar Université Club à Seydou Legacy Club de la Guinée. Amdine Sy, c'est un derby ouest-africain en deux formations, on va le dire, qui découvre cette Basketball Africa League.
Deux formations qui découvrent cette compétition. Donc, c'est un match qui s'annonce difficile pour ces deux minutes. Mais sachez, la combattre que le Duc s'est rapporté à puisque dans l'effectif du Duc, on compte un Américain, un Français, un Ivoirien et un Congolais. Il faut dire que le Duc pourra donc compter non seulement sur ses renforts de taille, mais aussi sur Bamba Diallo qui a disputé la première session de. Cette compétition, c'était l'année dernière à Kigali avec l'Islande. Et ce dernier a aussi joué avec les Lions la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est déroulée le week-end dernier à Dakar Arena. Il sera épaulé par Kevin Ibrahimania, qui n'est personne d'autre que le roi du basket sénégalais. Lui aussi, c'est un joueur très pris de talent, mais qui a de l'expérience, car il a joué beaucoup d'afro-basket avec le Sénégal. Donc, je dirais que le Duc pourra s'en sortir, mais le bal est que le Duc n'a pas trop de compétition puisque le championnat sénégalais n'a joué que 3 matchs et il a combat.
Amine, alors, l'AS Salé a une particularité, celle d'être coaché par une femme, l'Australienne Liz Mills. C'est une chose qui frappe à l'œil tout de suite. Alors, vous qui suivez cette formation marocaine, dites-nous comment ça se passe et quelles sont les ambitions de l'AS Salé qui est à sa deuxième participation tout de même.
Oui, l'AS Salé, c'est quand même l'équipe du 21e siècle au Maroc. C'est une équipe qui a pratiquement tout gagné, surtout dans la dernière décennie. avec 8 titres de champion, 11 titres en Coupe du Trône, un titre africain en 2017, une finale, 3 fois 3e place. Donc c'est une équipe qui est prétendante au titre, naturellement. Après, avec la coach Lévis, c'est une première. On est en train de briser des plafonds de verre. S'il ne faisait pas à 20, par exemple, au Maroc, dans une société arabo-musulmane, c'est quand même révolutionnaire d'avoir une coach d'une équipe professionnelle de sport tout entier, et en particulier au basket. Je pense que la préparation a été beaucoup plus sereine. Avant la première édition, le championnat marocain était à l'arrêt pour des raisons éclairées administratives au sein de la fédération. Donc, du coup, la préparation n'était pas optimale. Cette année, la préparation a été très très bonne, avec le recrutement notamment de Alvaro Massa, le vétéran espagnol qui était au ferroviaire Maputo pour la saison 1, Jacques Aruna, le Nigérien qui était au FAP du Cameroun, le retour de Terrell Coughlin qui avait terminé meilleur scoreur de la première édition. Donc oui, il y a aussi les vétérans Zakaria Mesbahi, Sofiane Koudou. Donc c'est une équipe que je vois très très complète. Je tiens juste à signaler que la NBA a aussi permis à 12 jeunes prospects de la NBA Academy Africa de rejoindre les 12 clubs. Et là, il fallait aussi récupérer les Marocains de 19 ans, Nabil Benis, qui a attendu beaucoup de bien. C'est vraiment une équipe très très complète. Et à ce niveau-là, quand on atteint ce niveau de la compétition, ce n'est pas seulement le 5 titulaire qui est important, ce sont aussi les joueurs dedans qui vont pouvoir prendre la relève pendant le match et avec la succession des matchs. C'est 5 matchs en 10 jours, donc la plus physique, la force physique doit être très très importante. Et je pense qu'il a installé naturellement, au même titre comme on assure que les Amalek, que les autres équipes favorites, elle est naturellement favorite pour le titre.
Merci Amine. Alors, Cheikh, les Tunisiens de l'US Monastir étaient en finale l'année dernière, battus par le Zamalek d'Égypte. On a vu une très bonne équipe tunisienne. Mm-hmm. Alors, dans cette conférence Sahara, les Tunisiens font partie. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui découvrent la balle, comme le Duc du Sénégal ou encore Sedou Legacy ou Ferroviaro de Beira. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens restent les grands favoris de cette poule, on va dire, cette conférence Sahara?
Bon, ça c'est une très bonne question. L'année passée, moi-même, je pensais que c'est la Tunisie qui va remporter.
Tout le monde a vu l'US Monastir remporter le trophée, mais à la fin, les Égyptiens ont dicté leur
mot. Absolument. Donc, cette année, ça va être différent, je pense, parce qu'ils avaient pas mal de vétérans chez eux en Tunisie. Je ne vois pas beaucoup sur leur recette, beaucoup de changements, mais ils avaient 3-4 joueurs là-bas quand même. S'ils restent là-bas, ils ont beaucoup la chance de faire une revanche cette année. Mais la Tunisie, il y a d'autres équipes qui veulent se venger aussi. Bon, c'est une compétition. Bon, on va voir s'il y a eu des changements des joueurs, parce que c'est une équipe professionnelle. La disponibilité des joueurs, ça compte beaucoup. Et puis, la Tunisie a la chance de vraiment prendre les revanches cette année, parce que les pays maghrébins, ils ont la capacité financière de vraiment amener les joueurs de partout. Déjà, même tu vois leur pivot de l'année passée, et le Nigeria, et puis il y a d'autres pivots qui viennent d'ailleurs de l'Europe qui ont vraiment, vraiment donné. Et ils ont gagné toutes leurs matchs à part le final seulement l'année passée. Mais Zamalek a fait une surprise de remporter ça. Ils avaient la potentielle, mais tout le monde pensait que c'était vraiment. Parce que c'est des gens qui ont. C'est une basket très rapide chez le Maghreb en Tunisie, et ils sont très rapides. Et là, en basket, la personne qui va se fatiguer d'abord, c'est la personne qui va perdre le match, quoi.
Tout à fait.
Donc, l'équipe tunisienne, vraiment, joue le match du même rythme du jusqu'à la fin. Et bon, il y a des équipes comme Salé du Sénégal.
Salé du Maroc.
Du Maroc, et puis Sénégal.
Et du Sénégal.
L'année passée,
c'était l'AS Douane.
Voilà, l'AS Douane.
À la balle.
Voilà, l'AS Douane avait beaucoup de potentiel l'année passée. Mais à la fin de la fin des matchs, tu sens vraiment la fatigue venir. Et c'est ça qui a fait même que ça va passer. Mais cette année, quand même, je pense qu'il va y avoir des grandes surprises encore, conformément à l'année passée.
Alors, Amdine Sy, je crois qu'il évoque un point, la fraîcheur physique, comment tenir du début jusqu'à la fin. Amine également le disait, c'est 5 matchs, 5 adversaires. Quelle peut être la clé pour une qualification pour le tour suivant?
C'est d'abord de négocier les matchs les uns après les autres. Et comme vous le dites, le basket, c'est très difficile. Il faut avoir un effectif interchangeable. Je pense que ça se jouera sur les équipes qui auront un effectif interchangeable auront le dessus sur les autres, puisque en basket, il faut faire tourner son équipe, faire des changements vraiment adéquats pour pouvoir s'en sortir, parce que si tu te mets dans un tournoi comme ça, avec 7 à 8 éléments, tu risques quand même de faire les frais de la pression Yacouba.
Alors, Amine, vous le disiez, 5 matchs, beaucoup de concentration sans doute. Quelle pourrait être la clé pour ces différentes équipes qui prennent part à cette première phase avec la conférence Sahara?
La clé, c'est d'être de bons scoreurs, en fait. C'est d'avoir un pourcentage d'efficacité assez bon. On a vu l'année dernière, Monastir, par exemple, qui a terminé deux, trois matchs au-dessus de la barre des 100. Donc, c'était un gage de réussite d'être très bon au shoot, d'être très bon au rebond aussi, surtout dans les rebonds offensifs. Donc, je pense que c'est pas sorti, c'est une question d'efficacité. Et l'efficacité est capturée par les meilleurs joueurs. Il n'y a pas de secret là-dedans. Après, il y a aussi les éléments d'expérience, le bon coaching. Par exemple, pour la SLA, Ludmille, ce n'est pas une novice. C'est quelqu'un qui a ramené, par exemple, le Kenya à la Pro Basket après 28 ans d'absence, qui a pu battre dans le chemin l'Angola. Donc, c'est le coaching, le bon scoring, l'efficacité, la forme physique et surtout la récupération, parce qu'il y a un match tous les deux jours, voire tous les trois jours. Donc c'est autant d'ingrédients qui peuvent contribuer à la qualification au cours suivant, à part peut-être pour Duc, parce qu'il y aura l'appui des supporters à la magnifique Dakar Arena. Donc pour toutes les autres équipes, les ingrédients sont clairs et nets, il faut être efficace, il faut rebondir un maximum de ballons, les récupérer sous les cerceaux et être très très bien physiquement.
Alors, Zengue, on a vu les Patriotes du Rwanda l'année dernière, poussés par leur public, faire de belles choses. Cette année, Duc découvre la compétition, Duc du Sénégal, je l'ai dit. Est-ce que le facteur, justement, public pourrait pousser cette équipe-là à se surpasser?
Oui, forcément, le public joue beaucoup. Et puis, vous savez que le Sénégal vient d'inaugurer également une nouvelle salle de basket qui est de top niveau. Et puis, le Sénégal, c'est un grand public qui est fan de basket, c'est un pays de basket. Et donc, le Duc est également... coaché par un entraîneur fixe de talent qui est appuyé aussi par Maguette Diop qui est collé au Duc depuis des années et des années, depuis plus de 20 ans, je le connais. Donc je pense que tout ça mis ensemble, c'est une chance pour le Sénégal de pouvoir au moins franchir au moins la barre des 3 victoires. Je pense qu'ils ont la possibilité d'avoir 2 à 3 victoires pour se qualifier pour les phases finales au Rwanda.
Justement, je reste avec vous, Zengue. Je le disais, votre pays, le Burkina Faso, n'est pas représenté à cette balle-là. Pour les clubs d'autres pays qui ne sont pas représentés, comme le Burkina, quel travail faut-il pour se retrouver un jour dans cette compétition de la balle?
Mais les pays qui sont déjà à la balle, parce que déjà il y a eu des phases préliminaires en octobre dernier, je crois. Et donc les pays qui sont là, c'est quand même des pays qui ont travaillé sur la durée, qui ont une bonne formation, qui ont travaillé à la base, qui ont travaillé au niveau du management également. Il faut aussi que au niveau de nos pays, il y ait de la vision, il y ait de l'accompagnement, il y ait du travail et qu'on pense à professionnaliser en fait la discipline. Parce que toutes ces équipes qui sont là-bas sont pratiquement des équipes semi-professionnelles qui ont des budgets assez conséquents pour se prendre en charge, pour se déplacer, pour arriver à ce stade. Donc, c'est pas en misant en fait sur le minimum qu'on peut arriver à la balle. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense aussi que le Burkina est en train de rêver pour atteindre ce niveau-là, parce que nous avons envie aussi de rentrer dans le concert des grandes nations du basketball africain.
Merci, monsieur. C'est ici que s'achève cette émission spéciale consacrée à la Basketball Africa League, dont la saison 2 commence, je le rappelle, ce samedi 5 mars à Dakar, au Sénégal. Pour en parler, nous étions en compagnie d'Amin El Amri, journaliste sportif depuis Casablanca au Maroc, Sylvain Zengue, depuis Dieppe en Normandie en France, président du Moving Basketball Centre au Burkina Faso et promoteur du Moving Sport Camp, Amdine Sy à Dakar au Sénégal, consultant sportif mais aussi ancien joueur, ancien entraîneur et ancien arbitre de basketball, en studio ici à Washington avec moi, notre collègue Cheikh Thiro. Cette émission a été réalisée et produite par Trésor Matondo et Michel Joseph. À la console, c'était Cornelis Turner. Merci à tous de l'avoir suivi. Je rappelle que la VOA est partenaire de cette balle et pour cela, nous vous ferons vivre cette deuxième édition à travers une rubrique quotidienne dans notre journal Le Monde Aujourd'hui. VOA Afrique vous propose également des matchs en direct sur nos stations FM et nos radios partenaires, de même que des émissions d'avant et après match ainsi que des analyses des matchs à la mi-temps. Vous pourrez aussi nous suivre sur nos plateformes sociales, Facebook, Twitter, Instagram et autres. On se dit simplement à la prochaine. Au revoir. Merci.